Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
C'est l'histoire d'un naufrage terrible, meurtrier et pourtant méconnu. Un naufrage au bilan bien plus lourd que celui du Titanic. Il y a 20 ans, le 26 septembre 2002, la catastrophe du Jola faisait 1800, peut-être 1900 morts.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties BD qui nous ont enchantés, à savoir Les Pionniers, superbe BD en deux parties sur les débuts du cinéma, publié par Rue de Sèvres. Le tome 1 s'intitule La Machine du Diable, le second Le Rêve Américain. Ce diptyque est une œuvre dont l'idée originale revient à Damien Maric, le scénario à Guillaume Dorizon et les illustrations à Jean-Baptiste Ostache et Jean-Baptiste Merle. En compagnie de son auteur, Stefano Boroni, nous aborderons une autre bande dessinée, bien évidemment, Que la mer vous soit légère, paru chez L'Harmattan. Enfin, nous vous présenterons une toute nouvelle maison d'édition sise à Jau, dans l'Oise, à 6 km de nos studios. Cette jeune entreprise s'appelle Nine Editions. Elle édite la très belle BD Corvax Stigmata de l'artiste Paula Andrade. Et nous avons rencontré sa fondatrice, Samantha Gonzalez, que vous pourrez écouter dans la seconde partie de l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Samantha Gonzalez, Virginie Robert, Dorian Sibilet et Nicolas Calmels pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés dans ce studio pour causer 9e art, il y a un certain Thomas Roland. Thomas Roland dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur chef. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment, salut à toutes.
Mon cher Thomas, je te sens très 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 en forme là, je vois que tu as envie de t'exprimer sur le 9e art, tu m'as dit un bonjour avec un tel enthousiasme que je ne peux que te redonner la parole pour qu'on aille faire un tour du côté de chez l'Armatan BD et qu'on aille rencontrer un certain Stefano Boroni et puis surtout que l'on parle de sa bande dessinée qui s'appelle « Que la mer vous soit légère ».
Une bande dessinée, comme tu viens de le dire, éditée par l'Armatan, mais aussi par cette édition. Donc, Que la mer vous soit légère, de Stefano Boroni. Stefano Boroni, il reprend et adapte l'expression « que la terre leur soit légère » qui salue un récent défunt en Afrique. Pour revenir sur le drame du naufrage du Djoula. On se souvient du Djoula, le ferry qui assurait la navette entre Dakar, la capitale sénégalaise, et la région naturelle de Casamance. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, alors qu'il revenait de Ziguinchor, qui est ville qui est située dans la région de Casamance, au sud du Sénégal, il sombre dans l'océan Atlantique, à 40 km des côtes gambiennes. Prévu pour transporter 536 passagers, il en avait embarqué alors le quintuple de sa capacité. Le naufrage cause 1863 morts et disparus selon le bilan officiel. Les associations de familles de victimes évaluent le nombre de morts à plus de 2000, soit dans tous les cas davantage que lors du naufrage du Titanic, 1500 morts, ce qui en fait l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire en temps de paix à ce jour. Il n'y a que 65 survivants. Cependant, Que la mer leur soit légère ne relate pas le naufrage, comme par exemple dans la traduction du film catastrophe états-unien des années 70. L'auteur prend le soin, dans une préface, ainsi que dans une chronologie des événements signée Adrien Absolu, de replacer le contexte et d'évoquer la naissance du Djoula dans un bref prologue. Mais le récit qu'il met en place adopte un autre point de vue, une autre approche qui laisse plus la place au fantastique qu'au réalisme. Pourtant, comme dans les films catastrophes, il met bien en scène plusieurs personnages qui symbolisent différentes couches de la population sénégalaise, de l'intellectuel au militaire, en passant par des représentants de la jeunesse. Ainsi, cela lui permet d'évoquer des thèmes et problématiques qui agitent la société sénégalaise. 8 personnages se retrouvent donc au fond de la mer, ne comprenant pas sur le coup ce qui leur arrive, avant de s'apercevoir que le Djoula, sur lequel ils naviguaient, flotte encore, mais la coque à l'envers. Ils prennent alors conscience qu'ils sont en sursis, s'organisent comme ils peuvent dans ce fond de l'océan avant de trouver une solution pour retourner à la surface. Pour accentuer l'aspect poétique, Stefano Boroni opte pour un noir et blanc et un dessin partagé entre le réalisme et la poésie aux cases meublées de détails surréalistes. Illustrateur indépendant et auteur vivant en Suisse, Stefano Boroni publie d'abord plusieurs albums de bandes dessinées pour la jeunesse édités par Nordesta. Après avoir traité de la relation entre la Suisse et l'Afrique australe au temps des colonies avec l'album Capitao, édité par les éditions Antipode, antipode.ch, qu'est-ce qui a bien pu pousser Stefano Boroni, qui est actuellement au micro de Culture Prohibée, à s'intéresser au naufrage du Djoula au point d'en faire une BD?
C'est la perte d'un copain qui était dans le bateau. Il s'appelle Domizio Lepori et il était accompagné de sa copine Barbara. Et voilà, à la base, c'est un hommage pour lui. Et puis après, aussi pour les autres victimes.
C'est quelque chose que vous aviez envie de faire dès que vous avez appris sa disparition? C'est quelque chose qui a mûri avec le temps? C'est venu comment?
Ça a mûri avec le temps, parce qu'au début, j'avais absolument pas envie de faire ça. Et après, par contre, pendant beaucoup d'années, je me suis posé la question de pourquoi, en fait, j'avais envie de faire ça. Comment le faire, et j'avais un peu un sentiment de culpabilité de parler de ça, de faire une BD là-dessus. Et puis après, j'étais épaulé et soutenu par mes amis, les amis aussi de Domizio, et j'ai passé le cap et puis j'ai réalisé l'album en 3 ans, quoi. Mais ça m'a pris au moins 10 ans pour faire cette réflexion-là.
On connaît l'histoire du Djoula, le naufrage. Bon, c'est expliqué dans la BD, dans une préface. Mais vous décidez de ne pas montrer le naufrage. Vous adoptez un autre point de vue qui est plutôt onirique, voire fantastique. Que pouvez-vous nous dire sur ce choix?
Ce choix a été dicté par mon envie de ne pas représenter des scènes dures, de ne pas être dans une objectivité visuelle. mais d'être dans la fable, être dans l'évocation, être puis surtout dans une tentative en fait de rendre hommage à toutes ces personnes disparues avec cette mise en place de ce scénario qui est effectivement qui est sous l'eau et puis les personnes elles sont vivantes et puis elles cherchent une solution pour remonter quoi. J'avais vraiment envie d'éviter le côté documentaire et aller dans l'autre sens en fait. Sauf au niveau des dialogues, au niveau des bulles, où là, il y a des informations qui sont concrètes et puis qui ont été aussi vérifiées par Adrien Absolu, le journaliste qui a fait la préface, et puis par le survivant Patrice Auvray, avec qui on a eu une très très belle collaboration tout du long la production de la BD.
Vous parlez de fable, justement, que pouvez-vous nous dire sur la création de ces personnages ? Parce qu'on... Bon, ce sont évidemment, on a l'impression que ce sont tous des symboles.
C'était l'idée, c'est des symboles qui, normalement, j'espère, peuvent couvrir un peu le panel des personnes qui sont disparues. Et c'était cette tentative-là, ouais.
Alors, vous avez dit que vous avez travaillé 3 ans sur la BD, 7 ans de maturation auparavant. À partir de quoi avez-vous travaillé ? Donc, ce journaliste-là dont vous avez parlé, mais est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches ? Avez-vous voyagé ? Comment ça s'est passé ?
Je n'ai pas voyagé sur le terrain. Je ne suis pas allé au Sénégal. Et par contre, j'ai dessiné... les premières esquisses en fait des personnages sous l'eau. J'ai senti tout de suite le côté que j'avais besoin de travailler avec l'eau et puis de les rendre vivants. Et quelque part en me distanciant presque complètement de l'événement réel en fait.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres témoins que ce journaliste survivant?
Alors non, j'ai pas rencontré d'autres survivants. Non, je me suis basé donc sur le document, le survivant, c'est pas un journaliste, mais c'est Adrien Absolu est journaliste et puis Patrice Auvray en fait c'est le survivant. Je me suis basé essentiellement en fait sur leur vécu et travail.
Pourquoi avoir fait je suppose que c'est en rapport avec le point de vue que vous adoptez. Pourquoi avoir fait le choix du noir et blanc?
Je suis pas capable d'utiliser la couleur. Trop difficile. J'ai fait des tests et puis c'est voilà. Et il y a mis à part ça, il y a aussi le côté où il y a un peu plus de de froideur peut-être. À côté du côté vie, du côté un peu vivant des scènes, etc. C'est le noir et blanc. Il y a un côté un peu plus sobre et puis un peu plus froid en fait qui contraste. J'aime bien les contrastes.
Alors justement, en contraste, chaque chapitre, parce que la BD est chapitrée, chaque chapitre est introduite par un dessin d'autres dessinateurs. Il y a 5 ou 6 autres dessinateurs, je crois, qui sont invités dans l'album. Comment vous avez fait ce choix de structure de la BD ?
En me basant sur mes goûts personnels de dessinateurs que j'aime bien, je les ai contactés et après aussi il y a certains qui ont répondu non puis d'autres oui et j'ai dû faire avec ça aussi, mais c'était pas par rapport à une cohérence graphique quelle qu'elle soit, c'était vraiment parce que j'aime leur travail et puis ces gens ont tous soutenu finalement la cause de la BD qui est effectivement une récolte d'argent pour l'association des victimes du genre.
Est-ce que vous avez des influences particulières pour avoir créé cette BD ? Parce que quand je la lis, cette histoire de personnages qui veulent remonter à la surface, moi je pense à un film hollywoodien célèbre qui s'appelle L'aventure du Poséidon de Ronald Nim. Est-ce qu'il y a des influences cinématographiques ou littéraires qui vous ont aidé à réaliser cette bande dessinée ?
Pour la structure du scénario, je me suis inspiré de La vita est belle de Roberto Benigni. C'est dans cette attitude-là, en fait, de parler de quelque chose de dramatique en étant léger, entre guillemets, quoi.
La BD se clôt sur un témoignage, mais aussi sur la liste des noms des victimes du naufrage. En quoi était-ce important pour vous de conclure ainsi ?
C'est des informations réel, déjà, le témoignage de Patrice Auvray, du vécu qui contraste avec le côté fable de la BD. Et c'était la liste importante, en fait, pour qu'elle soit disponible sur papier pour des personnes, ben voilà, pour les gens qui achètent la BD. Et voilà, le choix des couleurs s'est fait aussi pour dans l'idée de adoucir en fait cette liste.
C'est aussi une BD très politique, hein. À travers vos personnages, vous exprimez des choses sur la société sénégalaise. Et aujourd'hui, que peut-on dire de l'impact du naufrage du Joula sur la société sénégalaise et sur sa population?
C'est une bonne question. Je ne vis pas là-bas et je ne pourrais pas répondre en fait clairement, moi, de mon expérience. Mais ce que j'ai lu, ce qui a été dit, en fait, les échos que j'ai eus, c'est que ce naufrage-là a permis, en tout cas dans les premières années, en fait, de prendre conscience du comportement en fait, qu'il faut avoir vis-à-vis des, voilà, par exemple, des transports publics, dans la circulation routière, etc. En fait, d'abord, tout à coup, il y a eu voilà, une prise de conscience que voilà, il faut bien suivre les règles, puis qu'on ne peut pas faire vraiment comme on veut, quoi. Et alors, est-ce que ça, en fait, c'est encore en place? Je ne sais pas, en fait. Par contre, c'est clair que ce n'est pas que un discours, en fait, au Sénégal, parce que ici en Europe, en fait, on a la même chose, en fait, et on les esquive de peu, en fait, les accidents, hein. Ben voilà, quand on pense en fait aux moyens que nous on a par rapport en fait au transport public, etc., les révisions qu'ils peuvent avoir, les trains, les bateaux, etc., les avions, ben, si on met ça, ben voilà, il y a quand même en fait parfois des accidents, des choses comme ça qui arrivent quand même, quoi, par négligence, etc., sur la route ou dans les montagnes, etc., quoi. Donc je pense pas que c'est un discours qu'on peut juste en fait dirigé vers le Sénégal ou une autre partie, quoi, du monde.
C'était la naissance du cinéma. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Oh, il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien. Mais à condition, surtout, que ça n'empiète pas sur votre courrier. Alors j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont. Et je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis je m'en allais à côté des travaux photographiques. Il y avait un terrain absolument, oui, nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur, parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas. Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait « La fée au chou ».
Vous écoutez Culture Prohibée. Nous vous rappelons que l'auteur que vous venez d'entendre, donc Stefano Boroni, a signé la bande dessinée « Que la mer vous soit légère » et qu'elle est disponible chez l'Harmattan BD. Moi, je vais changer d'éditeur, je vais aller chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, qui nous propose une bande dessinée en deux tomes qui s'appelle Les Pionniers. Une bande dessinée qui a largement sa place dans cette émission, non seulement parce qu'on adore parler BD, mais en plus, bon, vous le savez, chers auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, nous aimons par-dessus tout le 7e art. Alors là, c'est une bande dessinée où le 9e art rencontre le 7e art. C'est une bande dessinée qui s'appelle Les Pionniers. Et évidemment, ça raconte l'histoire des pionniers dans l'histoire du cinéma. Alors cette bande dessinée, elle est magnifique. Alors le premier tome est paru, je l'avoue, il y a maintenant une bonne année et je suis passé à côté. Heureusement, grâce à Dorian Sibidé qui m'a fait part de la sortie de ce deuxième volume, j'ai pu rattraper mon retard et lire d'un seul coup les deux volumes. L'histoire est complète, hein, elle fait deux volumes, des volumes assez épais, des BD très grand format, très très belles. Des albums très luxe, en fait, très très beaux, plus grands que du A4, voilà, quelque part entre le A4 et le A3, c'est très, très beaux albums. C'est une bande dessinée à la base dont Damien Maric a l'idée. Il n'a pas que l'idée originale, il a aussi effectué beaucoup de recherches, il s'est beaucoup renseigné parce que on imagine qu'il y a une énorme documentation qui a été recueilli pour aboutir donc à cette BD qui ensuite va être scénarisée par Guillaume Dorizon et va être mise en image par Jean-Baptiste Ostache et Jean-Baptiste Merle, l'un s'occupant plus du dessin et l'autre des couleurs. Les couleurs sont assez superbes. J'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour cette BD en deux parties parce que justement elle évite tout l'écueil des BD historiques, c'est-à-dire c'est pas une BD didactique. Déjà, c'est une BD qui est très, très cinématographique. Elle présente, en fait, le dessin de Jean-Baptiste Ostache. Il est très, très fluide. On a l'impression de voir des personnages en mouvement. Et surtout, c'est une BD qui est dialoguée au minimum. C'est-à-dire, c'est un peu les Anthony Mann de la BD, voilà, pour faire un petit comparatif. C'est-à-dire qu'il y a une mise en image qui est une mise en image qui n'est pas très éloignée du storyboard. D'ailleurs, à la fin du deuxième volume, il nous présente le storyboard de la BD. L'histoire est assez simple, parce que là, je vous parle de la forme avant de vous parler du fond, mais forme et fond s'accordent parfaitement. Et on a une histoire qui nous raconte cette épopée que fut le 7e art, cette épopée dirigée par une bande de saltimbanques, en vérité. Donc, on a Charles Pathé qui vient d'une famille dont le père a une boucherie qui marche très très bien. Et lui, Pathé, il essaye de se lancer dans plein de business, mais à chaque fois, c'est une catastrophe. Il est pas très bon en affaires, il n'a pas beaucoup de flair. Jusqu'au jour où il va prendre conscience que la caméra, les systèmes de projection et tout, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc il va commencer à se lancer dans cette industrie. De l'autre côté, il y a Léon Gaumont, qui n'a pas encore vraiment sa boîte à ce moment-là, mais qui est, lui, spécialisé dans d'autres domaines. Et puis qui s'occupe d'une boîte qui est en grande difficulté. Et sa secrétaire, qui n'est autre qu'Alice Guy, va lui dire « Bon, monsieur Gaumont, moi je pense que l'avenir, c'est un truc qui s'appelle le cinéma. » Et moi, je veux bien vous faire des films, j'ai plein d'idées. Et Gaumont voit tout de suite que cette femme est exceptionnelle. Et effectivement, elle a du flair. Et parallèlement à tout ça, on va voir aussi le travail de saltimbanques, de gens qui... Parce qu'à le départ, il n'y a pas de salle de cinéma. On va découvrir qui a l'idée de créer des salles de cinéma. Au départ, tout cela est projeté dans des fêtes foraines. On va découvrir aussi le personnage d'Edison, qui est un type assez peu sympathique, qui n'hésite pas à envoyer des nervis pour voler le matériel. Parce que lui, il estime qu'on lui doit tout, en fait. Parce que... à un moment, alors lui, on sait qu'il piquait les inventions des autres en déposant les brevets, mais surtout à un moment, Méliès, dont les films sont distribués par Pathé, Méliès, qui est le premier à avoir l'idée de faire un studio quand même, ça on le voit bien dans la BD, Méliès utilise une pellicule avec un certain nombre de perforations. Et celui qui a le brevet de la pellicule avec ce nombre de perforations, c'est Edison. Donc on le voit dans la BD, Edison va passer un temps fou à faire des procès. À tous les Français qui utilisent sa pellicule parce qu'il estime que ses films doivent lui revenir. Les droits d'auteur, il s'en fout, Edison, lui. La notion d'auteur, d'ailleurs, est quelque chose de très, très éloigné de tous ces personnages. À l'époque, on n'en parle pas. La BD est surtout aussi l'occasion de découvrir... C'est quasiment pour moi le truc le plus intéressant de la BD, la vie d'Alice Guy Blaché. Parce qu'Alice Guy, c'est une grande précurseur dans l'histoire du cinéma, dont beaucoup des films ont disparu parce qu'ils ont brûlé. Et ça, on le découvre dans la BD, on le découvre dans le deuxième volume, parce qu'en fait, Alice Guy, qui est la vraie tête pensante de Léon Gaumont, en tout cas en matière de création artistique, va refuser ses avances. Parce qu'elle est très belle, Alice Guy, donc en plus elle attire la convoitise des hommes, intelligente, belle, talentueuse. Pour pouvoir travailler, elle va s'exiler, elle va aller travailler loin de Léon Gaumont, elle va aller travailler aux États-Unis. On va découvrir qu'Alice Guy, c'était quelqu'un, parce que tout cela est vrai, ce qu'il y a dans la BD, cet aspect-là est vrai, qui faisait tourner des acteurs noirs pour jouer des rôles de blancs. Donc évidemment, ça fait des scandales, aux États-Unis, des scandales pas possibles. Et on va aussi découvrir, malheureusement, que comment elle va aller à la ruine à cause de son mari, Blaché, qui va faire capoter, qui va se barrer avec une starlette et qui va faire capoter tout le travail d'Alice Guy. Et chaque volume, en fait, débute par un incendie. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément didactique. Il y a des flash-forward, c'est vraiment très, très ambitieux comme bande dessinée. Et c'est vraiment une fresque presque épique. Et je vous dis, dont le personnage principal, pour moi, encore plus que les autres, dont on connaissait déjà la destinée, en fait, que ce soit Pathé, Gaumont, Méliès, Max Linder aussi, hein, destinée tragique et tout. Mais on connaissait déjà la destinée de tous ces personnages, tout du moins, en grande partie. Mais on connaissait moins l'histoire d'Alice Guy Blaché, dont en plus, il n'existe que très peu de traces au niveau de ces films. Donc c'est très, très, très intéressant. Après, l'équipe qui a fait la bande dessinée, c'est une équipe de BDistes chevronnés. Et si l'on prend, par exemple, Guillaume Dorizon, qui signe le scénario, c'est celui qui était directeur littéraire chez les Humanoïdes Associés, qui avait lancé la création Shogun, dédiée aux créations de mangas originaux. Donc, il est passionné par les mangas. Donc, on comprend mieux ce découpage très, très cinématographique, en fait, de la BD. Parce que, alors, ça colle avec le sujet. Mais bon, on sait aussi que les mangas ont souvent un découpage très cinématographique. Jean-Baptiste Eustache, lui, il a commencé à travailler dans l'animation. Il a été décorateur. Il a bossé sur la Shuriken School, sur Anatan et les enfants d'Okura, dont il a fait les décors. Donc, on comprend mieux aussi cette impression de voir des personnages en mouvement, cette grande fluidité, la grande beauté des décors. Enfin, bref, c'est vraiment une BD que je vous recommande chaudement si vous aimez la BD et si vous aimez le cinéma, parce que ce sont deux albums qui ont le mérite de remettre à sa juste place Alice Guy. Rien que pour ça, ils sont indispensables. Et puis surtout, ce sont deux albums de très très bonnes BD. Donc ça s'appelle Les Pionniers, volumes 1 et 2. C'est signé Guillaume Dorizon, Jean-Baptiste Eustache, Jean-Baptiste Merle et Damien Maric. Et c'est disponible aux éditions Rue de Sèvres. Le tome 1, c'est La Machine du Diable. Et le second, Le Rêve américain. Et on vous le recommande chaudement.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma.
Vous êtes toujours à l'écoute de Culture Prohibée, nous sommes toujours dans notre émission spéciale bande dessinée, et nous nous penchons désormais sur une maison d'édition sise à Jau, dans l'Oise, donc une maison d'édition de BD qui s'appelle Nine Editions, une toute jeune maison d'édition qui vient de faire paraître son premier album qui s'appelle Corvax Stigmata, qui est une BD signée Paula Andrade, une artiste argentine. Alors c'est une BD sombre, c'est une BD poisseuse, hein, qui baigne dans une ambiance de sorcellerie mortifère, une œuvre sur la culpabilité qui est signée d'une jeune artiste argentine, donc Paula Andrade. Et qu'est-ce que raconte Corvax Stigmata ? Ça raconte les mésaventures d'un sorcier maudit qui doit réunir trois éléments pour annuler un sort et délivrer sa sœur. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la BD, c'est que les personnages ne sont pas forcément attachants, y compris la sœur hein, d'ailleurs pour laquelle ce sorcier se bat. Ils ont des côtés sombres et des côtés positifs. L'œuvre est atypique. Hein. Elle cite aussi bien Edgar Allan Poe que l'esthétique du manga. C'est vrai que ce qui frappe hein, à première vue, c'est l'esthétique du manga, et en particulier les mangas noirs et blancs, un peu plus sérieux, on va dire, qui maîtrisent ça très bien ces contrastes. Et c'est une BD où il y a énormément d'aplats noirs, où il y a une ambiance assez sombre. C'est une BD assez sombre hein, quand même. Hein, ça rigole pas beaucoup, hein, on va dire. Hein, c'est pas la franche rigolade. Corvax Stigmata, donc, de Paula Andrade, a aussi un découpage, comme on évoquait là pour la BD précédente, très cinématographique. Hein, c'est aussi une BD où, en fin de compte, il y a le minimum de dialogue et surtout énormément d'action. Et d'ailleurs, il y a un vrai travail en fait où on s'affranchit, par contre là, très très concrètement. Des cases de l'ordre logique et il y a certaines planches qui sont vraiment très très belles. Et franchement, je pense que c'est une BD qui a effectivement un potentiel pour une adaptation en film d'animation. Enfin, c'est vraiment le sentiment que ça donne. C'est aussi la première BD qui est publiée donc par une toute nouvelle maison d'édition oisienne, Nine Edition. Et c'est une bien belle découverte que cette bande dessinée Corvax Stigmata. Alors, ce que je vous propose, pour faire simple, c'est d'aller à la rencontre de Samantha Gonzalez. Alors, elle est à côté de nos studios, mais elle a un emploi du temps très chargé. Donc, nous nous sommes saisis de cet instrument magique qui s'appelle le téléphone pour la contacter. Et donc, tout de suite, la patronne de Nine Edition, Samantha Gonzalez, au micro de Culture Prohibée. Bonjour Samantha Gonzalez.
Bonjour.
Alors nous sommes donc avec Samantha Gonzalez qui est la patronne. D'ailleurs, elle fait tout toute seule, je pense, chez Nine Edition. C'est une toute nouvelle maison d'édition de bande dessinée qui est une maison d'édition située à Joux, dans l'Oise, à quelques pas de ce studio où nous enregistrons Culture Prohibée. Et ben là, on vient de parler de la BD Corvax Stigmata, qui est d'ailleurs un titre français qui est différent du titre original. Puisque le titre original c'est Cria Cuervos Ite Arrancaran Los Oros, j'ai un très mauvais accent, je suis désolé, qui pourrait se traduire par, si je ne me trompe pas, élever des corbeaux et t'arracher les yeux. Alors pourquoi vous avez préféré traduire le titre, enfin pas le traduire en fait, et mettre un autre titre, Corvax Stigmata?
Alors, Corvax Stigmata, c'était quand même une variante qui est proposée de l'autre côté de l'Atlantique, hein, puisque le Corvax Stigmata, à l'origine, donc, qui a quoi le reciter Arrancalan los ojos, c'est une œuvre qui vient d'Argentine. Mais l'autrice, Paula Andrade, a quand même proposé une variante de Corvax Stigmata. Cette variante, c'est une variante qu'elle a proposée justement pour les éditions qui se feraient du côté européen. Moi, j'ai trouvé que justement cette consonance, un peu, on va dire un peu latine, on va dire que c'est un peu comme du latin, sonnait plutôt bien et c'était plutôt simple à prononcer et à retenir. Parce que si c'est vrai que si je m'étais penchée plutôt pour une traduction la plus fidèle possible sur vers le français, je trouvais que le titre était un petit peu à rallonge et pas forcément très très évocateur.
Dans le titre, il y a Cria Cuervos. Alors, petite question de cinéphile. Là, je voulais juste savoir si c'était une référence au film de Carlos Saura.
Je pense qu'il y en a une. Je ne pourrais pas forcément vous dire si c'est vraiment ça ou pas, mais je pense qu'il y a quand même une influence de ce film-là sur l'autre.
Et pourquoi lancer Nine Edition, alors avec ce titre-là en particulier?
Moi, j'ai voulu... déjà, la naissance de Nine Edition s'est faite après avoir constaté plusieurs, on va dire, dysfonctionnements de notre chaîne d'édition en France. Mais j'ai voulu commencer par ce titre-là parce que, moi-même étant né de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Mexique, j'ai voulu venir un peu... mon continent d'origine, mon continent de cœur, qui est l'Amérique latine. Et en faisant donc un petit peu ma recherche, je suis tombée sur des artistes, d'incroyables artistes qui viennent de l'Amérique du Sud, notamment ici de l'Argentine. Et j'ai voulu commencer par mettre à l'honneur, en quelque sorte, ce continent-là.
Et comment s'est fait la rencontre avec Paola Andrade, qui est donc l'auteur de Corvax Stigmata, qui fait tout toute seule d'ailleurs, hein, c'est un boulot assez phénoménal.
Paola, elle a un agent de l'autre côté, elle a son agent qui est basé au Chili. Et moi, je suis passée par justement cet agent-là qui met à disposition sur son site internet un portfolio des artistes qui essaient de promouvoir. Son agent, c'est Artiste Go, et eux, ils ont donc leur portfolio en ligne, et justement, ils font un très très gros boulot et un très bon boulot pour justement promouvoir leurs artistes mondialement, notamment en Europe. Moi, donc, je suis passée avec j'ai été en contact avec Claudio, le gérant de cette agence-là. J'ai pu feuilleter son portfolio et c'est vrai que Corax Mata, dès les premières pages, j'ai directement accroché avec son style graphique et j'ai demandé je leur ai directement demandé à ce que je puisse vraiment feuilleter l'œuvre dans son entièreté. Et c'est ainsi qu'un contact établi entre nous trois, l'agent, Paula et moi-même.
Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Paula Andrade, parce que je pense que c'est sa première BD qui est publiée en France?
C'est exact. Paula Andrade est une artiste argentine. Corvax Sigmata fait partie de l'une de ses premières œuvres, bien qu'il ne soit plus... elle en a dessiné plusieurs. Actuellement, je pense que presque une dizaine de publications à son actif. Et cette autrice est aussi éditrice dans son pays d'origine. Elle a sa petite maison d'édition. Elle fait beaucoup de conférences liées au 9e art, à la bande dessinée. Elle donne aussi des cours à toute personne qui veut justement se lancer dans la bande dessinée pour qu'ils puissent en apprendre un peu plus et se lancer plus sereinement dans ce métier-là, dans le métier de dessinateur et d'auteur.
Donc vous êtes la patronne, vous êtes l'initiatrice, Samantha Gonzalez, de Nine Edition. Nine Edition, à ma connaissance, je pense que c'est la seule maison d'édition de bande dessinée dans l'Oise. Pourquoi avoir voulu créer une maison d'édition spécialisée dans le 9e art?
Déjà, tout d'abord, par passion. Moi, depuis que je suis... Le premier contact que j'ai eu avec la bande dessinée en arrivant en Europe, c'était en Belgique, et c'était avec Astérix. Depuis, si je peux me permettre de reprendre les mots d'Astérix, je suis tombée dans la potion, je n'en suis plus jamais ressortie. Donc c'est tout d'abord par passion. Ensuite, tout ça vient d'un contexte un peu particulier, c'est que moi j'ai constaté que le marché de la bande dessinée se porte plutôt bien, bien qu'il y ait des variations d'une année à une autre, mais que l'auteur, qui est quand même le créateur principal, hein, c'est lui qui peut faire de A à Z quelquefois toute une œuvre, il ne va pas être reconnu et rémunéré à juste titre déjà. Il en va de même pour les autres parties prenantes de l'élaboration d'un livre. Hein. Ça peut être traducteur, correcteur, graphiste. Il y a quand même une paupérisation visible de ces personnes-là. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la crise des matières, la crise écologique que nous subissons. Hein. On a tous vu qu'il y a des augmentations des prix de matières premières. Il y a aussi cette question de recyclage de déchets. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec le fonctionnement actuel de l'édition dans notre pays, on a quand même des tirages gigantesques qui peuvent être faits. Et il suffit, par exemple, qu'il y ait une erreur une ou plusieurs erreurs, hein, dans un album pour que que ce soit des centaines, voire des milliers de livres qui soient mis au pilon, qui soient détruits. Donc il y a également ça. Et puis il y a aussi le fait, je dirais, que beaucoup d'ouvrages sont produits à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est ou l'Italie. Et ça, c'est pour les maisons d'édition, c'est nécessaire pour pouvoir réduire leurs coûts. Donc ça, ce sont des choses que moi, justement, je voulais, en donnant naissance à Nine Edition, proposer une alternative à tout ça. Donc, rémunérer du mieux possible nos auteurs et les auteurs parties prenantes, c'est de faire des tirages de façon limitée et maîtrisée, de sorte à ce qu'il n'y ait pas ou très très peu. On va essayer quand même de détruire le moins possible de livres, ce n'est pas absolument pas le but. Et puis, la troisième raison, c'est de produire en France, Corvax Sigmata a été produit en France. Et pour les autres titres qui viendront, le seront aussi.
effectivement, tout ce que vous dites là fait partie de votre profession de foi, en quelque sorte, Samantha Gonzalez, hein, pour les éditions, Nine Éditions. Donc. Vous parlez donc, effectivement, de mieux rémunérer les auteurs, vous parlez de mieux maîtriser les tirages, d'encourager les circuits vertueux, et surtout, vous parlez aussi, en termes de diffusion pour les librairies, de quantité maîtrisée. C'est pas simple quand même de s'occuper de tout ça, en particulier... la diffusion, qui est certainement quelque chose parmi les tâches les plus chronophages et épuisantes que doit avoir à faire un éditeur.
Oui, alors quand on est en phase un peu de démarrage et qu'il faut s'établir sur le marché. Ça, c'est sûr. Là, par exemple, étant quand même seule pour ce qui est de la diffusion, et comme la structure, et petite, hein, il y a pas, le catalogue n'est pas très étoffé. C'est pas forcément intéressant de passer par un diffuseur-distributeur. Bien sûr, l'idéal ce serait de passer par eux, parce que comme ça, les albums, ils sont directement placés en librairie. Moi, je leur donne, en moyennant une commission, ils ont toute une équipe commerciale, ils se chargent de faire de proposer le livre aux libraires, les libraires les achètent, ils sont livrés, et puis on n'en parle plus. Mais comme je vous expliquais, c'est vrai que comme la structure est petite, d'un point de vue financier, ce n'est pas très intéressant pour moi. Pour le diffuseur-distributeur, ce n'est pas intéressant non plus parce que mon catalogue n'est pas très étoffé. Donc, il faut faire sans. Et donc, il faut démarcher, il faut faire soi-même la promotion auprès des libraires. Hein. C'est un jeu un rôle de commercial. Il faut aussi faire la promotion via... à travers les journaux, les médias, et c'est vrai que c'est une partie très chronophage. Hein. Il faut contacter tous les médias, que ce soit du régional ou du national. Ça prend un sacré bout de temps, oui.
Pour Nine Éditions, Samantha Gonzalez, vous avez fait le choix aussi d'un modèle économique qui est celui de passer par le financement participatif. Est-ce que ce choix de modèle économique, il est uniquement dicté par des contingences économiques ou il est dicté également par des considérations politiques ? C'est-à-dire que c'est une démarche qui vous plaît bien en fait dans le cadre d'une construction collective d'une maison d'édition ?
Alors, il y a un peu des deux. C'est vrai qu'il y a d'un point de vue économique, le financement participatif permet d'alléger un petit peu la trésorerie et les coûts. Ce sont les coûts de production qui sont les plus chers, hein, c'est l'imprimeur. Mais c'est vrai que c'est surtout du politique. Moi, je fonctionne beaucoup avec le un pour tous pour un. C'est vrai que la méthode du financement participatif permet, certes, à la personne en face d'obtenir un objet moyennant une contribution, mais ça permet surtout qu'elle s'investisse dans le projet. puisqu'elle peut suivre de A à Z ce qui se passe. Hein. À partir du moment où, par exemple, le titre est annoncé, elle va pouvoir suivre tout le cheminement, que ce soit où en est la traduction, est-ce qu'il y a eu des couacs, est-ce que le fichier a été envoyé chez l'imprimeur, est-ce que le fichier a bien été reçu, est-ce qu'il n'y a pas de problème, et tout ça jusqu'à ce que le livre soit livré chez lui et qu'il l'ait entre les mains.
C'est une bande dessinée, Corvax Stigmata, donc de Paul Andrade, disponible donc, chez Nine Éditions. Cette bande dessinée, elle est en noir et blanc. Est-ce que, évidemment, en termes de coût, si c'est de la couleur, ce n'est pas le même coût. Est-ce que vous, je suppose que vous prévoyez aussi de sortir des BD en couleur et tout ça. Enfin, ça aura forcément un impact sur le prix, ou alors vous attendez peut-être d'étoffer votre catalogue. Comment vous voyez l'avenir de ce côté-là?
Alors, c'est vrai que Corvax Stigmata, c'est du noir et blanc. Donc, en soi, c'est pas l'encre qui coûte le plus cher. Qui est un des facteurs les plus importants dans l'impression, ce sont surtout le nombre de pages et la qualité du papier qui est choisi. Moi, à l'avenir, je ne veux pas sacrifier la qualité des ouvrages. Je n'ai pas envie de passer par des matières premières qui soient plus ou moins cheap, si je puis dire. Et là, par exemple, pour Corvax Stigmata, le papier qui a été choisi justement de sorte à ce qu'il n'y ait pas de transparence, donc qu'on puisse quand même avoir un confort de lecture optimal. Et dans les ouvrages qui viendront, que ce soit du couleur ou du noir et blanc, la qualité, elle restera là, quoi qu'il arrive. Bien sûr, il y aura une répercussion sur les coûts. Comme ça, hein, de toute façon, que ce soit du format souple comme Corvax Stigmata ou que ce soit un format un peu plus rigide comme des bandes dessinées classiques qu'on peut avoir chez soi, bien sûr qu'il y aura une répercussion sur les coûts. Ceci dit, c'est comme c'est l'imprimeur le premier poste de dépense. C'est à moi de gérer un peu ce flux financier de sorte à ce que le prix soit le plus juste, tout en prenant en compte évidemment que devant ce prix il y a les droits d'auteur à payer et qu'il y a évidemment toutes les autres parties, que ce soit du traducteur, du maquettage, du lettriste. Moi j'essaie de. C'est un rôle de gestion. Je n'ai pas pour vocation de faire un chiffre d'affaires monumental. Moi, ce que je cherche surtout, c'est de prendre le temps pour pouvoir offrir un objet de qualité.
C'est une très belle profession de foi. D'ailleurs, je tiens à souligner, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir lire Corvax Stigmata de Paul Andrade, qu'effectivement, comme c'est une BD en noir et blanc, avec par moments des aplats noirs très importants et tout ça, c'est vrai que la qualité du papier joue énormément sur le fait que la BD soit plus agréable à lire. C'est effectivement à souligner. Vous revendiquez des goûts allant du comics au manga, en passant par la ligne claire, le webtoon. C'est important pour vous d'avoir une ligne éditoriale éclectique où on retrouvera des gens venus de tout horizon, de toutes sortes d'influences.
Oui, moi je n'ai pas très envie de me cantonner à un seul type de bande dessinée. On va avoir par exemple des émissions qui sont spécialisées dans le manga, d'autres dans les comics, etc. etc. Moi c'est vrai que ne serait-ce que parce que moi-même je suis une lectrice de bande dessinée, j'ai beaucoup de bande dessinée chez moi et ça peut être de tout. J'ai déjà vu du webtoon, du manga. Moi j'apprécie franchement tous les styles de bande dessinée. Et pour ce qui est des nationalités des auteurs, c'est vrai que moi comme j'apprécie tout particulièrement élargir mes horizons. Mon but c'est quand même de promouvoir les bandes dessinées qui se trouvent partout dans le monde, et ce soit pas forcément des bandes dessinées qui vont rapporter. Les gros titres ils sont quand même réservés pour les grosses maisons d'édition pour l'instant, j'espère en avoir un. Mais oui, là par exemple pour Paul, le Corvax Stigmata de Paul Andrade, il vient d'Argentine. Le prochain titre que j'espère pouvoir sortir viendra du Chili. Et à l'avenir, c'est vrai que j'aimerais revenir un petit peu plus sur, sur notre pays et pouvoir dénicher une œuvre française.
Et Samantha Gonzalez, justement, vous parliez à l'instant de votre prochain titre qui va paraître donc chez Nine Edition, qui s'appelle Mortis, signé Miguel Ferrada Italo. Aounada, j'espère que je prononce bien, et qui fait référence à un personnage que moi je rêve depuis longtemps de voir publié en France, c'est le sinistre docteur Mortis. Est-ce qu'il y aura peut-être des repros, des fascicules originaux? Est-ce que, quelle forme va prendre ce que j'ai cru comprendre être une variation autour de ce personnage culte de la BD populaire chilienne?
Oui, alors dans Mortis, qui devrait arriver cette année, il est prévu qu'il y ait quand même dans l'album qui sera proposé une partie sur justement les origines de ce personnage emblématique qu'est le docteur Mortis au Chili, ainsi qu'un making-of qui retracera non seulement un peu la chronologie du personnage Mortis, mais aussi la façon dont a été étudiée son œuvre pour pouvoir aboutir à cette sorte de suite, si je puis dire.
Peut-être pourriez-vous rappeler pour nos auditrices et auditeurs, Samantha Gonzalez, vous qui êtes la patronne de Nine Edition, comment faire pour se connecter au financement participatif de Mortis, qui donc vient au moment où on échange, là, vient de débuter.
Oui, alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Moi, je passe, pour ce qui est du financement participatif, par la plateforme Ulule.com. Et via cette plateforme, il suffit de taper sur la barre de recherche, en passant par la barre de recherche Mortis. Et les personnes pourront se retrouver ainsi sur la page du projet. Et bien sûr, elles pourront lire non seulement la petite partie qui décrit ce projet. Elles pourront même accéder à quelques planches de l'album. Et en contrepartie, les personnes ont le choix. Soit elles peuvent très bien donner un don libre. Il n'y a vraiment pas de montant minimum ou maximal pour ce qui est du don libre. En revanche, si les personnes sont intéressées par l'acquisition de l'album, qui aura quand même deux variantes, une variante régulière et une variante collector, elles peuvent donc à ce moment-là choisir une contrepartie. Les contreparties servent justement de précommande. Elles peuvent choisir l'album qu'elles souhaitent acquérir et en prenant cette contrepartie-là, elles participeront non seulement au financement de la campagne, mais comme ça, quand la campagne sera terminée, et pourront recevoir l'album chez elle.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Samantha Gonzalez. On rappelle donc que vous dirigez les éditions Nine Edition, spécialisées dans la bande dessinée, maison d'édition isarienne, et que donc on peut, en allant sur Ulule, capitaliser sur la sortie donc de Mortis, qui est votre prochain titre. Et puis, on peut aussi vous contacter ou aller chez tous les bons libraires pour acheter Corvax Stigmata, signé Paula Andrade, et on vous remercie et on espère lire beaucoup de BD éditées par Nine Edition dans les semaines, mois, années à venir.
Martillos y cuchillos, machetes y este medio pistolón. Porque nadie sabe lo que hay a mitad. Nada sano, de eso seguro estoy. Con sus experimentos y monstruos del averno, quizás un motherfucker will destroy. Al acercarnos podemos notar la única presencia que está más allá. Prepárense todos para explorar y en casa de Mortis destruir el local. Zombie monster vampiro from hell. Cuando penetramos en esa gran sala, laboratorio experimental, lo que ofrece comenzaron todos a despertar. Necesito un bater en ya.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Crime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Nu, une émission animée avec Thomas Roland dit le Loup-Garou Picard, avec le renfort à la technique de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien pour l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine.